Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'adresse spécialement à vous, les membres de l'école Jiu-Jitsu Saguenay.
Ouais, on a un gros sujet aujourd'hui.
Vraiment gros, ouais. On va décortiquer les notes tirées des émissions de radio JJS. Fait que c'est du matériel hyper riche qui croise la physique, les neurosciences, puis la vraie réalité des tatamis.
Exactement. Puis c'est pas juste la théorie plate, ça change la game au complet.
Tellement. Tu sais, quand on regarde un combat de jiu-jitsu ou de judo, notre œil est tout le temps attiré par les gros mouvements.
Les trucs spectaculaires, genre?
Ben oui, la grosse projection qui claque, le renversement qui fait lever la foule. On voit le point A, qui est la position de départ, puis le point B, quand le gosse s'effondre.
Mais on manque ce qui se passe entre les deux.
C'est ça. Entre les deux, il y a cette fraction de seconde. Un moment presque invisible, en fait. L'adversaire est plus tout à fait solide, mais il n'est pas encore en train de tomber non plus.
Il flotte, littéralement.
Il flotte dans un entre-deux. Puis c'est là qu'on arrive au fameux « aha moment » des notes de cette semaine.
Ah, la redéfinition de l'équilibre.
C'est fou. Fait que l'idée, c'est ainsi le fameux kuzushi, tu sais, la rupture d'équilibre qu'on nous enseigne depuis des années, ben c'est si c'était pas du tout ce qu'on pense.
C'est là que ça bouscule nos habitudes.
Si le but, c'était surtout de ne pas déséquilibrer l'adversaire de façon évidente.
Je sais que ça sonne complètement contre-intuitif pour n'importe qui a déjà tiré sur un col de kimono.
Ben c'est clair, on veut toujours faire tomber l'autre.
Mais pour comprendre, il faut aller voir du côté de la dynamique des systèmes complexes. On va parler d'un concept qui s'appelle la métastabilité.
C'est un gros mot, ça?
Ouais, ça fait très universitaire. Mais avant de l'expliquer, il faut cartographier les autres états de stabilité d'un corps sur le tatami.
OK, vas-y.
Les notes utilisent l'analogie d'une bille et d'un bol, genre.
C'est la meilleure image.
Mettons que tu prends un bol normal. Tu le poses sur la table, puis tu mets une bille au fond.
OK, je l'ai.
Ça, c'est l'état parfaitement stable. Si tu donnes une pichemette à la bille, elle monte un peu sur le bord, mais la gravité la ramène toujours au centre.
Direct au point mort.
Exact. Sur le tapis de jiu-jitsu, c'est le partenaire avec une base super large. Son centre de gravité est bas, y ancré.
Le golot, puis carré, impossible à bouger, tu sais.
C'est ça. Si tu le pousses, sa structure absorbe le choc. Il revient en place sans même y penser.
OK, fait que ça, c'est l'état stable. L'extrême inverse, c'est l'instabilité totale.
Ouais. Et là, tu retournes le bol. Ça fait comme un petit dôme.
Puis tu mets la bille sur le top du dôme.
Exactement. Au sommet bien lisse. C'est un équilibre précaire, limite impossible. Une mini-poussée, puis la bille dévale la pente.
Elle tombe, puis elle revient jamais en haut.
Voilà. En grappling, ça représente le gars qui a dépassé le point de non-retour. Ses pieds sont plus sous ses hanches, il est en chute libre.
Son cerveau a déjà pesé sur le bouton panique, genre?
Totalement. Son système nerveux est en mode survie pour amortir la chute.
Rendu là, on s'entend, le travail est fait, la gravité s'occupe du reste.
Ouais, mais c'est pas le plus intéressant. Le vrai secret, c'est le troisième état.
La fameuse métastabilité.
C'est le point magique. Reprends ton dôme inversé, OK? Mais imagine qu'au sommet, il y a une toute petite crevasse. Une petite cuvette.
OK, juste assez pour tenir la bille.
Exact. La bille a l'air super stable et bouge pas. Mais l'équilibre est fragile. La moindre pression continue va la sortir de la cuvette puis la faire tomber.
Fait que sur un humain, ça ressemble à quoi, ça?
C'est un adversaire sous tension. Son poids est mal réparti, mettons 70 % sur une jambe.
Ah ouais.
Il est coincé neurologiquement. Il hésite entre attaquer ou défendre. De l'extérieur, il a l'air correct, mais son système est fragile.
OK, attends un peu. Là, j'ai une question de néophyte.
Vas-y.
Si on veut renverser l'autre en jiu-jitsu, on veut qu'il soit instable, non? Pourquoi on voudrait qu'il reste dans cette petite cuvette métastable?
Ben, c'est une question de contrôle. C'est fondamental.
Ah ouais, hein? Pousser un gars direct dans le vide, c'est pas mieux.
Non, parce que si tu le poses trop fort, son instinct de survie embarque. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un bras, il twiste ses hanches, ça devient un gros scramble.
Il tombe, mais on sait pas comment.
C'est ça. Le chaos total. Il peut atterrir n'importe où, loin de l'assumption que tu préparais.
Fait que l'instabilité, ça veut dire perdre le contrôle de la suite.
Exactement. Alors que quand il est métastable, son cerveau n'a pas encore allumé l'alarme rouge. Il se dit juste « faut que je force pour rester en équilibre ».
Il faut que ça pas tomber.
Voilà. Et c'est là que toi, tu diriges la chute. Tu choisis l'angle et la vitesse sans qu'il s'en rende compte.
C'est tellement brillant. C'est pas juste une métaphore physique, tu sais. C'est littéralement comme ça que le corps bouge. Les notes parlent du chercheur Scott Kelso. C'est super intéressant.
Kelso, c'est un incontournable pour la coordination dynamique. Son expérience est hyper célèbre en neurosciences.
Celle avec les doigts, là.
Ouais. T'assois quelqu'un, puis tu lui demandes de bouger ses deux index de haut en bas en parallèle.
Facile.
Au rythme d'un métronome. Fait que les doigts montent puis descendent ensemble. C'est super facile à faire.
À basse vitesse, oui. Le cerveau gère ça comme un état hyper stable.
Mais là, le scientifique accélère le métronome.
De plus en plus vite.
Puis là, un truc fou arrive. Spontanément, le mouvement bascule en mode antiphase.
Genre, un doigt monte, puis l'autre descend.
Exact. Sans que la personne le décide.
Attends, la personne ne veut pas changer le mouvement. C'est involontaire.
Complètement involontaire. C'est une transition de phase.
Mais pourquoi le cerveau fait ça? Il peut pas juste forcer.
Il pourrait, mais ça coûterait trop cher en énergie. Bouger en parallèle super vite, c'est forcer contre la biomécanique naturelle.
Ah! Fait que le cerveau déteste gaspiller son énergie.
Voilà, il frappe un mur, il passe par un état de chaos métastable, puis paf, il s'auto-organise dans un nouveau mouvement plus économique.
Fait que le mouvement n'est pas dicté par un genre de programme central dans la tête qui micro-gère chaque muscle.
Exactement. Le système s'adapte aux contraintes. C'est ça la découverte de Kelso.
Fait que si on ramène ça au tatami...
C'est là que ça devient pratique pour nous.
Un passage de garde, mettons.
C'est pas une technique ABC que tu rentres dans l'ordinateur. C'est juste, tu mets de la pression sur une garde stable.
Tu mets de la pression, tu modifies les angles.
Puis tu forces son cerveau à entrer dans une crise énergétique jusqu'à ce qu'il bascule ailleurs. C'est ça, hein? Tu l'amènes dans la petite cuvette métastable. À un moment donné, le gars en dessous réalise que maintenir sa garde, ça coûte trop cher.
Ou c'est juste physiquement impossible. Puis là, sa garde s'ouvre presque toute seule.
C'est le système nerveux qui abandonne l'ancienne position pour s'auto-organiser autrement. Toi, t'as juste créé la contrainte.
Peut-être le combat, c'est juste une suite de ces transitions-là. C'est malade. Mais, tu sais, ça vient piler sur les orteils de l'enseignant traditionnel.
Ah, ça détruit la définition classique du kuzushi qu'on voit au judo, c'est sûr.
Ben oui, le fameux 1-2-3, déséquilibre, placement, projection. On a tous appris à tirer fort sur le col pour casser la posture en premier.
Sauf que si tu fais ça, tu crées l'instabilité chaotique qu'on veut éviter.
Fait que le vrai kuzushi moderne...
C'est pas de déséquilibrer, c'est de créer et de maintenir la métastabilité.
Tu le gardes sur le fil du rasoir.
Toujours. Tu joues avec ce qu'on appelle le contrôle dynamique.
Mais logiquement, tu sais, garder un gars de 200 livres en équilibre précaire, ça doit brûler les bras, non?
C'est l'erreur du débutant, de forcer avec ses muscles. L'expert utilise sa structure, ses os, ses angles.
Ah, c'est pas musculaire.
Non, c'est l'adversaire qui brûle son énergie à essayer de retrouver son équilibre sur une structure qui bouge tout le temps.
Il fait juste des micro-corrections non-stop.
Exactement. Le kuzushi, c'est enchaîner ses états de fragilité.
C'est littéralement la différence entre une ceinture blanche puis une ceinture noire.
C'est flagrant quand on y pense.
Tu sais, le débutant pousse de toutes ses forces. Ça ressemble à des camions qui se rentrent dedans.
C'est saccadé, c'est rough.
Puis la ceinture noire, elle a l'air de rien faire. Elle te guide avec une petite pression, t'as l'impression de tomber toi-même dans son piège.
L'illusion parfaite. L'expert a juste orienté ce que ton propre système nerveux voulait faire.
C'est magique. Mais bon, ça m'amène à la question à $1 million.
Comment on apprend ça?
Ben oui, c'est bien beau en théorie, mais sur le tapis à 100 à l'heure, comment ton cerveau fait pour percevoir que l'autre est dans la petite cuvette métastable?
C'est là qu'on rentre dans la pédagogie de la perception.
Parce que le débutant, lui, il voit juste des bras puis des jambes. Il essaye de plugger une technique YouTube là-dessus.
C'est une vision hyper géométrique. L'expert, lui, il ressent les tensions, les transferts de poids.
Les petites hésitations.
Ouais, il perçoit les affordances, comme disait la chercheuse Eleanor Gibson.
Une affordance, c'est une opportunité d'action, c'est ça?
Oui, exact. L'expert voit pas un espace sous un bras. Il ressent directement le chemin vers le dos. Il sent l'état métastable avant même que l'autre y soit.
C'est de l'anticipation un peu. Fait que pour calibrer notre perception comme ça, les notes de Radio JJS donnent 3 règles.
3 règles essentielles sur le tatami, oui.
La première, c'est qu'il faut rouler beaucoup, faire du combat vivant. Les drills statiques, ça vaut rien pour ça, non?
Ben non, ça contient aucune vraie métastabilité. Le partenaire est passif.
Il résiste pas, fait qu'il n'y a pas de tension.
C'est un mannequin inerte. Ton système nerveux a besoin de vrai feedback pour se calibrer.
Ensuite, la 2e règle, rouler avec de la variété. Faut changer de partenaire.
C'est crucial. Si tu tournes toujours avec le même gars, ton cerveau lit juste ses affordances à lui.
Dès qu'un nouveau gars arrive avec des longs bras, t'es perdu.
Voilà. Il faut des lourds, des légers, des fluides, des agressifs.
Pour se bâtir un vrai catalogue perceptif, puis la troisième règle, c'est de rouler avec attention, pas juste pour gagner.
Ça, c'est dur pour l'ego.
Ah, tellement. Faut arrêter d'essayer de placer sa technique par la force, puis juste sentir ce qui se passe.
Accepter les positions inconfortables, jouer avec les limites, c'est de l'improvisation pure.
Les sources sont liées avec le jazz, d'ailleurs. Les pros disent tout le temps « Ah, j'ai pas de plan, je réagis ».
Parce que l'état métastable est unique à chaque milliseconde. Tu peux pas chorégraphier ça d'avance.
Aucune séquence mémorisée survit au contact de la réalité.
L'improvisation, c'est ton système perceptif qui est assez affûté pour s'auto-organiser en temps réel.
Wow, ça prend à réfléchir. Fait que, en résumé, pour tout le monde au jujitsu Saguenay, le combat, c'est pas un catalogue de prises, c'est une dynamique d'état métastable.
Une belle négociation de stabilité.
On détruit pas l'équilibre avec force, on cultive la fragilité de la posture. C'est le vrai kuzushi.
Et tout ça, ça se travaille par la variété et l'écoute en sparring. Puis on va aller encore plus loin dans les prochaines sessions.
Ah oui, c'est juste le début. Les épisodes 9, 10 et 11 vont plonger dans le couplage perception-action, les travaux de Gibson, puis la fin du mythe de la technique parfaite.
La variabilité fonctionnelle, ça va être un méchant gros sujet.
J'ai hâte. Mais pour vous laisser là-dessus, j'ai une petite réflexion provocatrice pour le prochain entraînement.
Je t'écoute.
Si la clé du haut niveau, c'est de percevoir ces fameuses transitions-là sans imposer de plan rigide, est-ce que le but ultime de vos années d'entraînement, ce serait pas, paradoxalement, d'oublier toutes vos techniques pour enfin commencer à juste sentir le combat?
C'est profond, ça.
Pensez-y la prochaine fois que vous embarquez sur les tatamis. On se reparle très bientôt pour la suite.